society sculpture. Grassland, the talent, the so-called post-fast, we need to see a conservatory.
Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière émission de la série sur la vie et l'œuvre de Léon Tolstoï. Bonjour Claude Ferret.
Bonjour Manu.
Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les dernières années de la vie de Léon Tolstoï, la pression de la fin du 19e, l'arrivée de ce nouveau siècle. Des révolutionnaires de tout poil sont venus à la rencontre de Léon Tolstoï. Il a écrit pas mal de lettres au tsar pour, on pourrait dire, s'indigner.
Oui, c'est vrai.
Ses rapports épistolaires, on parlera de ses rapports épistolaires avec Gandhi et bien sûr sur cette fin, ce nouveau siècle, l'arrivée de Lénine dans le visage, dans le paysage politique de la Russie de cette époque. Voilà, on peut démarrer. Alors que se passe-t-il à la fin de ce siècle-là, à la fin du 19e ?
Nous sommes donc au début du 20e, en ce moment-là, l'émission dans laquelle nous allons parler, et nous sommes sous le règne de Nicolas II, empereur et autocrate de toutes les Russies. Pas rien, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Hein. Donc c'est le dernier tsar, comme on le sait, couronné en 1894 et mort en 1917. Ou 18, je crois. Enfin, il a régné jusqu'en 17, je crois qu'il a été assassiné en 18. Et donc, son couronnement, c'est ça que j'ai trouvé ça fantastique, moi je ne savais pas tout ça, son couronnement en 1895, Manu, est filmé. Le cinéma est là déjà, les frères Pathé, tout ça. Donc, dans cette fin 19e, le cinéma est en Russie, je crois vers 1906, 1907, Edison va offrir des États-Unis un gramophone à Tolstoï. Bien sûr, parce que Tolstoï, comme on l'a dit déjà, des fois, est connu partout, quoi. Il va s'en servir de ce gramophone, on va l'entendre parler, Tolstoï. Alors, ce qui est très marrant aussi, c'est qu'il se sert de sa bicyclette. Il a une bicyclette, fin 19e, Tolstoï, et c'est très mal vu par ses disciples. C'est la débauche la plus absolue d'aller faire de la bicyclette à cette époque-là. Voilà, donc il se déplace en bicyclette pour aller se balader. Alors, ce qui est important dans cette dernière émission, nous sommes entre 1905 et 1910, il y a une pression énorme qui monte. On est juste avant la révolution de 1917, bien sûr. Et Tolstoï, là, va agir de tout son poids, de toute sa force pour dénoncer toute cette violence, cette injustice, quoi. Donc on sait que octobre 1905, il y a plus de 1000 personnes qui sont tuées sur la place des Tsars à Saint-Pétersbourg. Hein. Nicolas II ordonne de tirer dans la foule. Et là, Tolstoï est complètement, lui qui prône l'humanisme, la non-violence depuis 30 ans, 25 ans, est complètement outré. Et donc, il va écrire à Nicolas II. Il écrira. Donc, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Lettres au Tsar ». Je vous encourage, chers auditeurs, absolument à lire ce petit livre. Vous verrez à quel point ce que Tolstoï dit à Nicolas II aujourd'hui pourrait vraiment est adressé à bien de nos dirigeants actuels. Et quand je dis à bien de nos dirigeants actuels, je pense au pays dans lequel nous vivons, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Nicolas II dans cette... je vais vous lire un tout petit extrait de ce qu'il dit, par exemple. « Personnellement, je pense qu'à notre époque, la propriété terrienne est le même genre d'injustice criante et évidente que l'était le servage il y a 50 ans. Je pense que son abolition mettra le peuple russe sur une haute marche d'indépendance, de prospérité et de satisfaction. Je pense aussi que cette mesure fera disparaître toute la perversion socialiste et révolutionnaire qui s'allume de nos jours parmi les ouvriers et devient un énorme danger aussi bien pour le peuple que pour le gouvernement. » Oui, parce que, comme nous allons le voir, Tolstoï n'est pas plus d'accord avec tous les communistes et les socialistes de l'époque qui prônent la violence pour arriver à la fin du régime du tsar. Plus loin, il dit donc à son appel en 1905, il dit après toute cette tuerie qu'il y a eu, ces assassinats, il dit « Mais que faites-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» s'adressant à Nicolas II. « Vous luttez pour le pouvoir qui vous fuit, mais l'important n'est pas que vous gardiez ou non le pouvoir. Ce n'est pas cela qui est important. » Ça, on devrait bien le dire aujourd'hui à tous nos dirigeants. Ce n'est pas eux qui sont importants, ils veulent tous garder le pouvoir. L'important, ce sont les souffrances corporelles et spirituelles, la perversion qui s'abat sur le peuple russe, parce que vous n'avez pas su, et ne savez ou ne voulez toujours pas utiliser le pouvoir pour le bien du peuple. Par tous les moyens, vous voulez conserver votre pouvoir, mais vous n'aurez jamais la force de le conserver uniquement pour le conserver. La victoire n'appartient ni aux roueries, ni aux ruses, ni aux habiles mesures politiques, ni aux violences, mais toujours à la bonté et la vérité. » Voilà, donc Tolstoï, là, il met le paquet, il met la gomme, quoi, comme on dit, pour dénoncer, quoi. Et oui, son témoignage dans tout ce qu'il fait en cette époque-là, il fait ressortir tant qu'il peut les mots d'une société figée où il y a le désordre social, la violence, la guerre. C'est très dur ce qui se passe en Russie et en ce moment-là. Et qui dit « pervertissent les peuples, leur liberté, leurs droits humains sont bafoués. » Et on est pratiquement dans l'actualité, quoi, quand on parle comme ça aujourd'hui. Et il dira à tous les dirigeants, au tsar, « Votre soi-disant morale est totalement immorale, dira-t-il, car elle assassine des hommes, des femmes, des enfants, au nom de Dieu et de votre fameuse soi-disant morale. » Donc il y a la guerre, la fameuse guerre russo-japonaise 1904-1905 qui engage la Russie avec beaucoup de pertes. Hein. Tolstoï est catastrophé. Il va même jusqu'à aider des pauvres militaires qui sont obligés de partir alors que lui défend la non-participation à l'armée. Mais bon, il va aider même des militaires. Alors comme je l'ai dit, Tolstoï est connu à cette époque-là dans le monde entier par ses actions humanistes et de dénonciation de toute l'injustice. Et le prix Nobel existe depuis 1901. Et par ce fameux Suédois, ce riche Suédois. Et Tolstoï hésite. En 1906, c'est quand même pas rien, on propose le prix Nobel à Tolstoï en 1906. En 1906, il doit avoir 78 ans, c'est ça, oui. Il est fatigué, il est un peu malade. Sa femme n'a pas tellement envie qu'il fasse ce grand voyage en Suède, quoi. Donc, elle le dissuade de partir. Et lui, il se laisse faire parce que Tolstoï n'aime pas tous ses grands discours. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas les réceptions mondaines. Mais alors, à cette époque-là, c'est fini pour lui. Puis, il répugne absolument toutes ces situations officielles. Il serait allé si... Oui, il est intéressé par l'argent qu'il allait recevoir pour l'investir dans l'aide aux plus démunis. Ça, c'est évident. Mais bon, Tolstoï refuse en 1906 le prix Nobel. Il a été donné à un Italien, premier prix de littérature. 1908, devant les révoltes, la répression augmente. Il y a une forte poussée révolutionnaire. Hein. Nicolas II, plus il y a des révolutions et des révoltes, plus il serre la vis. Le pouvoir assassine à tour de bras. Il y a des gens qui sont pendus chaque jour. Des meurtres, alors là ça commence, des meurtres ont lieu dans les campagnes. Il y a des propriétés qui sont attaquées. Des maîtres même sont tués parfois. Hein. Et les grands propriétaires terriens, ils ont peur à cette époque-là, 1908. La femme de Tolstoï aussi. Et Tolstoï a reçu une fois une menace de mort. Mais Tolstoï en a vu d'autres. Il n'a absolument pas peur. Il dira que ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Et c'est là qu'il va écrire son célèbre « Je ne peux me taire ».« Je ne peux me taire », je l'ai lu à la BNF à Paris. On ne le trouve pas du tout nulle part en français, ici maintenant dans les librairies. Et c'est absolument émouvant, bouleversant, la façon dont Tolstoï explique toutes les pendaisons qui ont lieu, qu'on assassine des gens qui n'ont rien fait, quoi. Donc, Tolstoï va commencer maintenant, à partir de cette époque-là, à enregistrer. Il a reçu ce gramophone d'Edison et il va commencer à parler, à enregistrer, se servir de cette espèce d'appareil d'enregistrement. Et sa femme filme, aime beaucoup la photo, donc il va se servir de ce gramophone pour s'exprimer. Il avait bien compris que cet outil allait devenir un puissant moyen de diffusion des idées, de ses idées, quoi. Donc, comme tu disais Manu au départ, beaucoup de révolutionnaires viennent le rencontrer. Des communistes, des socialistes, des extrémistes, des anarchistes, et qui veulent que Tolstoï se rallie à leur cause. Parce que tous trouvent que Tolstoï développe d'excellentes idées, quoi, et dénonce à une force de frappe inouïe pour dénoncer et puis ne pas aller en prison. Bon, ses disciples y vont. Hein. Mais Tolstoï ne voit pas ça du tout d'un bon œil, de renverser le régime tsariste par la violence. Comme on le sait, on le redit, Tolstoï est absolument non-violent et il restera inébranlable jusqu'à la fin de sa vie là-dedans, quoi. Il dira à tous ces révolutionnaires, l'homme doit se transformer de l'intérieur. Tolstoï ne croit plus qu'un système va changer la société et l'homme. Il ne croit plus aux révolutionnaires et leur idéal de partage par la force et la violence à la fin de sa vie. Mais il y a quand même ce fameux grand révolutionnaire, Kropotkine, cet anarchiste russe qui a beaucoup influencé sur la révolution de 1917 et qui vient voir Tolstoï. Tolstoï prend des risques immenses, inouïs d'inviter Kropotkine et il va aller jusqu'à quand même, Manu, à traduire ses ouvrages afin qu'ils soient diffusés dans le reste du monde. Quoi.
Il est traduit de quoi? De russe hein?
Du russe, en français, en anglais, voilà. Et ce Kropotkine est quand même un homme très intéressant. Je vais citer ce qu'il dit, par exemple. « Le sens moral est en nous une faculté naturelle, dit-il, tout comme le sens de l'odorat et le sens du toucher. Quant à la loi et à la religion, qui, elle, aussi ont prêché ce principe de solidarité. Nous savons qu'elles l'ont simplement escamoté pour en couvrir leurs marchandises, leurs prescriptions, à l'avantage du conquérant, de l'exploiteur et du prêtre. » Voilà, donc évidemment, ce sont des gens qui sont hors de la religion. Alors que Tolstoï, pas du tout, reste justement, lui, ce qui fait sa particularité, reste dans ce message du Christ et du Bouddha, tu vois, dans quelque chose d'authentique, quoi. Alors il dira, Tolstoï dira à cette époque-là, avec le gouvernement russe, il y a deux solutions pour agir, la violence ou l'amour. Heureusement que Tolstoï a utilisé la dernière action. Et il insistera, c'est ça qui est intéressant, Manu, toute sa vie et surtout dans ses derniers moments, et qu'il voit ce qui se passe, ces révoltes, ces violences, ces assassinats partout. Tout pouvoir, il dira aux révolutionnaires communistes, socialistes, aux bolcheviques, tout pouvoir acquis par la violence, il dit, engendrera encore davantage de violence. Ça, il a étudié ça, il l'a examiné méticuleusement depuis 30 ans. On l'a parlé longuement. Donc il écrit encore plusieurs fois à Nicolas II. Il lui demande, le supplie de libérer tous les prisonniers politiques.
Mais est-ce que quand il écrit au tsar, est-ce que le tsar lui répond ?
Non.
Ah.
Non. C'est des lettres, c'est des lettres ouvertes. Tantôt, alors c'est soit des lettres ouvertes qui paraissent dans la presse, ou je pense quelquefois il y a des messagers qui vont. Il les a parfois sous son, sur son bureau. Hein. Il n'en tient pas compte du tout. Donc il lui demande dans cette ultime lettre de libérer les prisonniers politiques. Il y a plein de prisonniers politiques, les persécutés de ces fameux sectes religieux dont on a parlé la dernière fois, les libérer, de libérer la presse, il dit d'organiser, alors il insiste, d'organiser la répartition des terres, lesquelles absolument, dit-il, doivent être toutes à la disposition des paysans. Ça, il a bien compris. Ça, c'est une... comment dirais-je, c'est un axe central de Tolstoï dans ces dernières années. Il a vu que si Nicolas II ne faisait pas une répartition des terres, ça allait exploser. Quoi. Donc la révolte gronde et il sent bien qu'il faut agir si on ne veut pas éviter une explosion sociale de grande envergure. Avant de vous faire entendre Tolstoï parler en français, c'est quand même extraordinaire. Je veux vous expliquer un petit événement qu'il a vécu pour expliquer la position de Tolstoï. Dans une institution féminine à Moscou, il y avait des examens. Bien sûr, le professeur puis l'évêque étaient présents. Ils interrogeaient des jeunes filles sur les commandements, et particulièrement le sixième, « Tu ne tueras point ». L'évêque posait parfois une autre question. Il disait à ces jeunes filles, « Le meurtre est-il toujours, dans n'importe quelle circonstance, interdit par la loi de Dieu ?» Et les malheureuses jeunes filles, dit Tolstoï, instruites dans le mensonge par leur maître, devaient répondre et répondaient, « Pas toujours. L'assassinat est permis à la guerre et aussi pour châtier les criminels. Cependant, l'une d'elles, et ceci n'est pas une invention, mais un fait raconté par un témoin à qui l'on demanda, « Le meurtre est-il toujours péché ?» répondit résolument, très émue et rougissante. « L'assassinat est toujours défendu, dit la jeune fille, aussi bien dans l'Ancien Testament que par le Christ, et non seulement l'assassinat, mais tout mal commis contre son prochain. » Et ce fut l'évêque qui, malgré toute sa majesté et son habile éloquence, dut se taire. La jeune fille sortit victorieuse. Voilà, donc Tolstoï dit, nous pouvons... parler dans nos journaux des progrès de l'aviation, des relations diplomatiques complexes de différents clubs, de découvertes, d'alliances de tout genre, d'œuvres que l'on qualifie d'artistiques, et taire la réponse de cette jeune fille qui dit que tout assassinat est défendu, quoi, quel qu'il soit. Mais il est impossible tout de même de la passer sous silence. Car toute créature appartenant au monde chrétien sent plus ou moins confusément la vérité de cette réponse. Le socialisme, le communisme, l'anarchisme, l'armée du salut, la criminalité qui augmente, le chômage, le luxe grandissant, insensé, des riches et la misère des pauvres, le nombre croissant des suicides, tout manifeste, tout témoigne que cette contradiction intérieure doit être résolue. Quant à la solution, il n'y en a qu'une, celle de la reconnaissance, de la loi d'amour et du refus de toute violence. Voilà, donc Tolstoï insiste bien pour dire que tout assassinat, même de son ennemi, est un crime. Et je trouve qu'on devrait vraiment, dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, considérer ce domaine-là. Donc, nous allons entendre... Alors, il faut... Chers amis, chers auditeurs, il va falloir prêter très attention parce que Tolstoï, on va écouter Tolstoï qui parle ce qu'est la religion en français. Ça dure 1 minute 23. Il va dire que la religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel. Mais je vais vous laisser l'entendre. Alors, tendez bien l'oreille.
Il faut surtout penser que c'est les prémices des enregistrements sonores. Hein.
Voilà.
C'est le tout premier son enregistré. Donc, oui. Voilà, c'était sur une tube de cire.
La religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel qui, soi-disant, se produisit d'autres fois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et de certains rites. Il n'est pas non plus, comme le pensent les savants, le reste des superstitions et de l'ignorance antique qu'il n'est dans notre temps d'aucune nécessité d'adapter dans la vie. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu. Rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'âme humaine, c'est la lampe de Dieu, dit une sage expression hébraïque. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, et ne s'enflamme que dans l'âme éclairée par la vision, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la religion et en quoi consiste son essence.
C'est assez, c'est assez particulier, sa vision de la foi. C'est vrai, c'est ça. Alors, je pense qu'on va plutôt voir c'est Gandhi maintenant. Ses relations, ses courriers, ses lettres qu'il a, puisque donc moi je m'étais trompé, je t'avais dit, j'avais dit qu'il avait rencontré Gandhi. Non, ils ne se sont jamais
Manu
rencontrés.
Manu veut absolument que
ça aurait été bien quand même.
Oui, c'est
ça. Ça aurait été quand même quelque chose d'envisageable. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, il essayait de ne pas trop voyager. Sa femme le retenait à la maison pour pas que. Voilà, mais ça aurait été bien que.
C'est vrai, c'est vrai. Mais un courrier très étroit s'est établi entre Gandhi et Tolstoï et très émouvant. J'avais dit dans l'émission précédente que je lirais des extraits de ses lettres. Pardonnez-moi, je ne le ferai pas parce que. Il y a trop de choses à dire dans la demi-heure qui nous reste. Je vous dirai simplement où trouver ces lettres sur Internet. Elles sont très faciles à trouver. Mais je vais quand même en parler. Donc, nous arrivons dans le point, cette fin de vie, très important pour Tolstoï. Nous sommes en 1909. Gandhi, le jeune Gandhi qui est né en 1869, va avoir 40 ans, quoi. 1909, ça fait ça, quoi. Il est déjà très connu en Afrique du Sud, évidemment. Il a fait de la prison, hein. Et donc, il défend tous les opprimés. Il a, comme je l'ai dit déjà, lu Tolstoï, très intéressé par Tolstoï. Et il connaît donc, bien sûr, depuis longtemps la pensée tolstoïenne. Il écrira pour dire qu'il considère comme majeurs les écrits de Tolstoï, particulièrement Le royaume des cieux est en vous, Que faire, Qu'est-ce que l'art, on en a parlé un peu, L'esclavage moderne, Le premier pas, Où est l'issue. Donc il convient bien évidemment de comprendre que c'est principalement à travers Tolstoï que Gandhi a découvert la non-violence selon l'évangile. Gandhi a lu les évangiles, il est un hindou, il était imbibé de la Bhagavad Gita et tous les écrits, et il a trouvé dans la façon dont Tolstoï présentait les évangiles une rencontre vraiment merveilleuse, quoi, entre l'hindouisme et les évangiles. Donc, pourquoi Gandhi est tellement intéressé par Tolstoï? Parce qu'il avait lu la fameuse lettre à un hindou. Je n'en ai pas parlé de cette lettre à un hindou qu'un émigré indien, hindou, aux États-Unis avait écrit à Tolstoï comment faire pour libérer l'Inde. Et il lui avait demandé, il avait écrit à Tolstoï et il ne voyait pas d'autre solution que la violence, quoi. Et c'est cette fameuse lettre à l'hindou de 20 pages que Tolstoï lui a répondu qu'il n'y avait pas d'autre solution que la non-violence, quoi. Bon, je ne détaille pas plus parce que vous tapez sur Internet « lettre à l'hindou » et vous l'avez. Ça, il y a encore 4-5 ans, on ne l'avait pas. Hein. Pour trouver ça, je devais aller à la BNF à Paris ou lire des livres spécialisés. Maintenant, « lettre à l'hindou » se trouve sur Internet. Tout comme, d'ailleurs, la correspondance entre Gandhi et Tolstoï. Donc, À l'époque où il étudiait le droit à Londres, Gandhi, comme j'ai dit, avait acheté cette Bible, mais c'était très compliqué. Et dès qu'il a lu Tolstoï, ça a été beaucoup plus clair pour lui, quoi. Il était, comme je vous dis, influencé évidemment par la Bhagavad Gita. Alors, il va donc, à travers ce serment sur la montagne, trouver tout le serment sur la montagne, le royaume de Dieu est en vous. Il va trouver toute matière pour élaborer et adapter ses actions, son attitude de non-violence, quoi. Oui, parce que les massacres en Afrique du Sud, à cette époque-là, ça y allait, quoi. Donc, en 1908, on sait que Tolstoï passe un mois dans les prisons à Johannesburg à cause de la campagne de désobéissance civile qu'il a lancée en Afrique du Sud pour s'opposer à cette fameuse loi britannique qui contraint les Indiens à un contrôle policier humiliant et qui les rend précaires leur droit de séjour alors qu'ils sont venus travailler en Afrique du Sud. Enfin bon, vous connaissez tout ça par le pouvoir britannique. Et en 1909, Gandhi vient à Londres pour rencontrer ça. Dans ceux qui ont vu le merveilleux film Gandhi, il en parle. Gandhi vient à Londres et c'est de là qu'il va s'adresser à Tolstoï, le 1er octobre 1909. Le temps donc est venu pour Gandhi de s'adresser, comme on dit, à son maître, quoi. Il pense, d'une part, que Tolstoï, qui est mondialement connu, pourrait bien lui être utile pour faire connaître le mouvement de résistance non violente qui se développe en Afrique du Sud et d'autre part. Donc, Gandhi sollicite de Tolstoï l'autorisation de faire imprimer à 20 000 exemplaires cette fameuse lettre à un hindou que Tolstoï avait écrite. Gandhi souhaite qu'elle soit lue par ses compatriotes, donc en Inde, dont un grand nombre préfère la violence à la non-violence pour lutter contre le pouvoir colonial britannique. Donc Gandhi, déjà là, on est avant 1910, s'investit à fond avec l'aide de Tolstoï. Gandhi, ce qu'il faut savoir, il sait très bien qu'en écrivant à Yasnaya Polyana, il a besoin de Tolstoï maintenant. Le disciple a besoin de son maître, comme on dit. Une impressionnante amitié va naître en réalité entre eux. Et Gandhi a besoin de cette renommée de Tolstoï mondiale pour que lui se fasse aussi, sorte la tête de l'eau, quoi. Oui, en écrivant pour la première fois en 1909, Gandhi cherchait une aide et une reconnaissance auprès de celui qui incarnait le mieux la conscience morale, tant en Occident qu'en Orient. Comme on l'a dit 100 fois à cette époque-là, Tolstoï incarnait une morale universelle, quoi. Plein de gens se référaient à lui. On disait, mais voilà, il n'y a pas d'autre voie. Cette façon qu'il avait de parler de l'amour du prochain, d'accueillir toutes sortes de personnes, accueillir les révolutionnaires, les assassins, leur parler, tu vois, pour essayer, parce qu'il a bien compris que c'est l'homme qui doit changer, c'est pas les systèmes. Donc, un an plus tard, donc il y a eu quand même Tolstoï, Gandhi écrira 4 fois à Tolstoï, donc de 1909 à un mois avant que Tolstoï meure, et Tolstoï va répondre 3 fois à Tolstoï. Et la dernière lettre de Tolstoï à Gandhi sera un mois avant qu'il meure. Et donc, il va désigner dans cette dernière lettre, c'est pratiquement une lettre testamentaire que Tolstoï adresse à Gandhi, comme il lui lègue, on ne peut pas lui dire qu'il lui lègue sa non-résistance au mal, la non-violence, enfin si, ils ont un échange très intense à Tlan, et si tu veux Manu, Tolstoï lègue à Gandhi, lui donne le relais, quoi. Et Tolstoï désigne Gandhi comme celui, c'est très important ça, comme celui dont, je cite Tolstoï, l'activité au Transvaal, le Transvaal c'est la région de l'Afrique du Sud, est l'accomplissement le plus important parmi tous ceux qui ont actuellement lieu dans le monde. Oui, parce que c'est quand même assez nouveau que des mouvements de cette envergure non violente se déploient, quoi. Et ils ont compris, Gandhi et Tolstoï, que si on voulait faire bouger quelque chose, il n'y avait que la non-violence, quoi. Et donc, en lisant cette dernière lettre de Tolstoï, Gandhi est quand même très, très, très impressionné. Romain Rolland, qui aime évidemment beaucoup Tolstoï et qui a rencontré Gandhi, Romain Rolland. Gandhi est venu voir en Suisse Romain Rolland. Bon, vous savez que Romain Rolland a écrit à Tolstoï. Alors Romain Rolland, il dira dans son un jour, il dira « Le jeune Indien Gandhi recevait de Tolstoï mourant cette sainte lumière que le vieil apôtre russe avait couvée en lui, réchauffé de son amour, nourri de sa douleur, et il en faisait le flambeau qui a illuminé l'Inde. La réverbération en a touché toutes les parties de la terre. »
Voilà, on a trouvé le remplaçant de Tolstoï.
Et donc, pour illustrer ce que l'Inde doit à la Russie, quand j'ai visité New Delhi, on m'avait dit qu'il y avait une très grande avenue Tolstoï à New Delhi. Une des plus grandes avenues s'appelle l'avenue Tolstoï. Et dans une place, une grande place, il y a, je trouve ça fantastique, une immense statue de Tolstoï dans le cœur de New Delhi. Voilà. Donc, on a quand même... Alors, ceux qui sont intéressés pour, je le redis, les lettres de Tolstoï et Gandhi, vous tapez « Lettres de Tolstoï et Gandhi » sur Internet, vous les trouvez. Pas de problème. Correspondance entre Tolstoï et Gandhi. Mais par contre, vous pouvez aussi les trouver dans la revue 89 Alternative non violente, qui est dirigée par Monsieur François Vaillant. Ce sont des revues très intéressantes sur la non-violence. Et là, vous avez aussi, ceux qui n'ont pas Internet peuvent, ça ne coûte pas très cher, acheter la fameuse revue Alternative 89, où il y a toutes ces correspondances. Donc, c'est évident qu'après tout cela, on pourrait presque arrêter, on aurait tout dit, mais on n'a jamais tout dit, Manu, avec Tolstoï. Et ce que je trouve magique, c'est que on a bien sûr critiqué Tolstoï, comme tout homme public, on l'a critiqué, François Porcher, je l'ai cité, j'ai lu les critiques de Tolstoï, il dit « Pendant que les fils Tolstoï fainéantaient sur leur domaine, un tout autre jeune homme, Vladimir Ilitch Ulianov, non loin de chez eux, étudiait bien plus sérieusement son droit, avec une toute autre ardeur que les fils de cet apôtre de la non-résistance au mal. » Vous aurez compris, Vladimir Ilitch Ulianov deviendra Lénine plus tard. Vladimir Ilitch Ulianov avait pratiquement l'âge des fils de Tolstoï. Donc eux, ils glandaient un peu quand même sur leur domaine. Ils vivaient un peu des rentes familiales et faisaient un peu les 68 tard.
Les bobos.
Au début, un petit peu peut-être, oui. Bon, après, bon, bah, qui des deux a apporté le plus à l'homme, à l'humanité, ça, c'est à chacun de... Donc, quand Porcher, M. Porcher, François, dit que Tolstoï s'amuse avec ses lubies de paysans, d'éducateurs, moi, je trouve que ce n'est pas très respectueux pour tous les besogneux de la planète. Parce que même si Tolstoï n'a pas fait de miracle, moi, je trouve qu'il a ensemencé dans la conscience des hommes une autre façon de considérer la vie. Oui, une autre façon de considérer la vie. Et de ne pas toujours accuser les autres de ses propres maux. Que chacun doit se prendre en charge. Ça, c'est absolument révolutionnaire. Et Tolstoï a martelé cette démarche. Et il a toujours... Il a dit après, donc après les années 80, et surtout dans la fin de sa vie, que l'homme doit changer du dedans, de l'intérieur. Et que sans cette prise de conscience, rien de sérieux et de durable peut s'articuler. Donc, Tolstoï, c'est malheureux, il ne croit plus maintenant aux idées des bolcheviques, des mencheviques, comme je l'ai dit, encore bien, évidemment, moins au régime tsariste soutenu par l'Église orthodoxe. Là, il martèle, il ne croit même plus au partage par la force, tu vois. Il dit, c'est pas possible. Toute violence engendrera davantage de violence. Il dit, chacun est responsable de ses actes. Se connaître soi-même, se dévoiler, se transformer, est-ce possible? C'est la seule action vraie. Les sociétés ne changent pas l'homme, qu'il dit. C'est seulement le changement intérieur de l'homme qui peut changer la société. Donc, on peut dire que Tolstoï est imprégné de cette démarche, de ce fameux « connais-toi toi-même » de Socrate, tu vois, Manu. Des sages de l'Inde, de l'Orient, de l'Extrême-Orient, comme la démarche du Christ qui prône aussi lui cette transformation intérieure de l'homme qui doit être la vraie libération intérieure. Et je trouve, on peut dire, vraiment, je pense, on peut le dire, me disent les enfants, on peut le dire.
Tu vas le dire.
Je vais le dire. Je peux le dire. Pardon. Que toute l'œuvre de Tolstoï, enfin pour ma part en tout cas, est un large exposé de l'homme, de son esprit, de sa psychologie, de son psyché, de l'âme humaine. Et à travers toute cette œuvre déployée durant 50-60 ans qu'il a travaillé Tolstoï, chacun est invité, s'il veut, à se regarder lui-même, parce que Tolstoï, comme on l'a dit, dévoile tous les recoins de l'être humain. Voilà, ce qui fera dire à Maxime Gorki de Tolstoï, l'homme humanité.
C'est dommage, parce qu'ils se sont tous, voilà, ont cru en l'homme.
Ils ont tous cru en l'homme.
Ils ont tous cru en l'homme, mais l'homme, lui, n'a pas rendu la monnaie.
Ben, si tu veux, c'est quand même beaucoup plus facile de dire on va changer la société en restant plus ou moins le même. Quoi.
Toujours pareil. Oui.
Et ça, c'est. On est, mais je me mets dans le lot, attention.
Ah, mais tous, c'est tous, un problème d'actualité.
C'est un problème. Alors là, je trouve que c'est ça, toute l'œuvre de Tolstoï. Je trouve qu'il faudra faire d'autres émissions peut-être pour encore montrer à quel point ça peut être un levier de compréhension et d'exploration et de dévoilement d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui. Quoi. Donc, il existe bien évidemment des milliers de livres, des milliers, je ne sais pas combien, mais d'énormes livres qui ont traité de tous ces sujets. Des gens comme Tchekhov, Gorki, fréquentait beaucoup Tolstoï. On connaît la force de littérature et des œuvres de théâtre de Tchekhov. Tchekhov fréquentait beaucoup Tolstoï. Ils se sont rencontrés en Crimée quand ils étaient malades ensemble. Là, et d'ailleurs, j'ai appris que, dans mes lectures, que la fille de Tchekhov a failli se marier avec une fille de Tolstoï.
Ils étaient, le fils ou la fille?
Un fils de Tchekhov a failli se marier avec une fille de Tolstoï. Mmh. Oui. Bon, Tchekhov s'est un peu éloigné à la fin de sa vie de Tolstoï. Bref, chacun sa voix, quoi. Donc Tolstoï est au bout de sa vie, il veut tout quitter, comme on en a parlé dans la première émission. Il veut tout quitter, il veut partir dans un monastère, il veut vivre anonymement, il veut se retirer du monde, il veut vivre comme un sage, mourir peut-être comme un sage, enfin comme un sage ou comme un simple homme, être humain. Mais manque de peau, Tolstoï ne s'appartient plus, quoi. Il a beau à vouloir vivre seul dans un coin, c'est plus possible, quoi. Bon, donc, cette fameuse révolution russe arrive. Et il y a un homme, quand même, que tout le monde connaît, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui va s'appeler Lénine. Et à la mort de Tolstoï, Lénine, qui connaît parfaitement l'œuvre de Léon Tolstoï, qui est un admirateur de ses œuvres littéraires, bien sûr, Lénine avait... Guerre et paix, Anna Karénine comme livre de chevet. C'est intéressant à voir. Et ce qui est intéressant à comprendre, même les œuvres religieuses, humanistes, spirituelles. Il ne faut pas oublier que le père de Lénine n'est pas n'importe qui. C'était un précurseur de l'éducation nationale, j'allais dire. Il a créé des institutions de grande échelle pour que le peuple apprenne à lire, le père de Lénine. Et il a été anobli par le tsar. Donc, Lénine est le fils
d'un noble,
d'un aristocrate anobli, quoi. Donc, qu'est-ce que fait Lénine avec tout cela à la mort de Tolstoï? Après, bien sûr, il a écrit quelque chose qui fait allusion à Tolstoï, le miroir de la révolution russe, quoi. Il est évident que beaucoup de gens ont écrit là-dessus, ont pensé, ont vu. Quand vous lisez l'œuvre, même littéraire, de Tolstoï, on se dit, mais il a contribué à la révolution russe, quoi. Tu ne peux pas penser autrement, quoi. Avec tout ce qu'il a dénoncé et dit, il a cassé la baraque tant qu'il a pu pour... voilà, donc... Lénine, évidemment, s'est un peu servi de tout ce miroir de l'œuvre de Tolstoï. il a peut-être un peu omis tout le côté. Je ne sais pas ce qu'il a omis, je n'ai pas à moi de juger, hein, mais bon, peut-être les œuvres plus spirituelles de Tolstoï, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Lénine est venu au pouvoir, il y a eu 9 mois de vraie démocratie en Russie. Ce n'est pas rien après tout ce qui venait de se passer. Hein. Bon, Tolstoï avait prévenu Nicolas II que si vous ne changez pas, vous allez, mais il l'a carrément dit, vous allez vous faire zigouiller, là, si vous ne changez pas votre fusil d'épaule. Et donc, Lénine, c'était intéressant à voir. Il va protéger les communautés tolstoïennes. C'est fantastique. Il va protéger durant toute une année les non-violents qui ne veulent pas faire leur service militaire. Il ne va même pas les obliger à faire leur service militaire.
Mais comment s'est passée la transition entre le tsar et Lénine ? Ça s'est passé relativement bien ou
ben
ça
non, je ne suis pas un spécialiste de cette transition, mais tu sais bien que Lénine était en exil en Suisse et qu'on était en pleine guerre mondiale. Hein, et les Allemands ont payé des sommes astronomiques pour renverser la Russie. Et donc ont payé dans un wagon blindé de Suisse jusqu'à Saint-Pétersbourg, le transfert, l'arrivée de Lénine à Saint-Pétersbourg afin qu'il prenne le pouvoir. Donc il y a eu, il y avait des révoltes, je ne connais pas le détail, mais ça a été violent, quoi. Eh oui, la révolution d'octobre, ça a été très violent, quoi. Des meurtres, des assassinats, et puis ils ont capturé Nicolas II et sa famille, et comme tu sais, ils l'ont assassiné, quoi. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, voilà, donc Tolstoï a Lénine a défendu les non-violents et il ne les obligeait pas à faire le service militaire. Ça a duré un an, parce qu'il était quand même très touché. On ne pouvait pas tuer l'âme, l'esprit, l'œuvre de Tolstoï. Ce n'est pas possible, c'est l'âme russe. Et il a sans doute fallu qu'il change son fusil d'épaule, Lénine. Je suis pas en train du tout de le blanchir, mais il y avait quand même toute la guerre civile après 1919. Ça chauffait dur, hein, parce que la Russie blanche ne s'est pas laissée faire avec tout cela. Hein. Donc il a fallu sévir, il a fallu imposer par la force toutes les idées révolutionnaires, quoi. Et je vais vous citer, il nous reste encore un petit quart d'heure, on a encore des choses à dire. J'ai envie de vous dire, vous lire ce que Lénine a dit de Tolstoï. Voilà ce qu'il a dit, Lénine, c'est quand même pas rien, en parlant de l'œuvre de Tolstoï. Il a poser, dans ses écrits, un si grand nombre d'immenses problèmes. Il a su atteindre à une telle puissance artistique que ses œuvres se classent parmi les meilleures de la littérature mondiale. Il y a dans son héritage ce qui ne sombre pas dans le passé, mais qui appartient à l'avenir. Je trouve ça quand même très, très beau. Excellent, ce que Lénine dit de Tolstoï. Nous pouvons ajouter des choses qui ont été dites sur Tolstoï, que j'aime beaucoup. Un monsieur que vous avez peut-être lu, ceux qui ont lu « Maître et Marguerite » de Bulgakov, connaissent Bulgakov, évidemment. Donc, il dit, dans un livre de Bulgakov, pour illustrer un peu ce qu'est Tolstoï à la fin de sa vie. Et quant à Tolstoï lui-même, je le cite, « On n'aura jamais fini d'en cerner la personnalité, car il est à la mesure ou à la démesure de la Russie, terre immense sous un ciel infini. Il a connu, éprouvé, tour à tour magnifié et honni toutes les passions de la chair et toutes les exigences de l'esprit. C'est bien l'homme-humanité. » Selon la formule saisissante de Gorki. Et qui plaisait, devant le peintre qui cherche à fixer ses traits, cet homme de génie, déjà affreusement intimidant, se révèle aussi un modèle impossible, agaçant, qui, comme le lui reproche le sculpteur Trubetskoy, ne tient pas en place. Non seulement il se métamorphose dans le temps, brûlant à 50 ans ce qu'il a adoré à 30, le bonheur conjugal et familial, reniant dans sa vieillesse les chefs-d'œuvre de son âge mûr, mais il est profondément instable, versatile, déchiré de contradictions et passant d'un extrême à l'autre. En lui, l'artiste, le penseur, le moraliste, le jouisseur, l'aristocrate et l'anarchiste sont en perpétuel affrontement. Tolstoï, et c'est sa grandeur, fut durant toute son existence son propre champ de bataille. À la fin de sa vie, circulait en Russie de naïves images d'Épinal, le montrant la main à la charrue, ou pareil à un dieu marin à la barbe folle. Et je vais terminer par ce que dit Léon Chestov, aussi un écrivain russe. Tolstoï fut avant tout une grande âme rebelle, mais ce qu'on n'a pas assez vu ou voulu voir, c'est que cette révolte se tournait avant tout au-dedans de lui-même. Il est admirable de voir cet homme génial et conscient de son génie, ce que d'aucuns appellent mesquinement son orgueil, dit-il. Si, comme l'a dit Léon Chestov, Tolstoï n'a confié sa destinée à personne et a cherché à guérir par ses propres, moyens, n'est-ce pas là le signe d'une autre exigence, d'une grande noblesse d'âme? S'il avait été orgueilleux, il se serait contenté de faire trembler le tsar et l'église, ce qu'il a fait bien sûr, et de se laisser vénérer par ses disciples. On a mis parfois en doute, et avec acharnement, sa sincérité. Tolstoï était faible? Oui, comme tout homme. C'est ça qui fait sa grandeur. Ce que j'ai dit déjà, c'est que Tolstoï reflète tout homme que nous sommes, avec ses faiblesses. Mais hypocrite? Non. Léon Chestov, qui n'était pas un de ses disciples, a raison d'écrire. Sa sincérité est hors de tout soupçon. Même Dostoïevski, qui n'aimait pas forcément Tolstoï, avait dit la même chose, que sa sincérité est hors de tout soupçon.
Et même... Oui, par exemple.
Nous arrivons à la fin, encore 10 minutes, et avant de vous quitter, chers auditeurs, c'est avec un peu d'émotion que je vous quitte, car je me suis beaucoup investi.
Oui, beaucoup. Alors ça, on peut le dire.
Dans ces émissions, chaque émission m'a pris des heures et des heures pour les préparer. Et comme vous le savez, Tolstoï jouait beaucoup de piano, on en a parlé, c'était un bon pianiste. Et il a créé, ça dure 1 minute 27, une sonate. Tolstoï a créé une sonate, une valse en fa majeur. J'ai vraiment beaucoup de joie, après vous avoir fait entendre la voix en français de Tolstoï, de vous faire entendre de Tolstoï la valse en fa majeur, enregistrée en 1908.
Non, on ne pense pas. On se posait la question avec Claude si c'était Léon Tolstoï qui jouait, mais je ne pense pas vu la qualité de l'enregistrement. Voilà, mais bon, Léon Tolstoï qui avait aussi composé quelques pièces musicales. Oui, alors voilà, cette émission touche à sa fin et Claude Ferré. Alors moi, je me rappelle, il y a 10 émissions quand Claude est venu nous voir et que voilà, il était passionné de Léon Tolstoï. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se débrouiller? Bah, il s'est voilà, ça a été un boulot de chef. Il a vraiment mené ça comme un grand. Claude Ferré, qui n'avait jamais fait de radio, qui voilà, comme paysan, comme il se nomme lui-même, paysan à la retraite. Voilà, il a la passion, lui a facilité, on va dire, l'addiction. Et pour lui, bon, il y a eu un grand boulot qui a été fait. Je me rappelle les premières émissions où il bossait vraiment. Il était presque plus fatigué en préparant ses émissions qu'en faisant l'émission. Mais voilà, il arrive un peu à sa fin. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, si tu pouvais revenir et nous reparler de trucs qui peuvent être intéressants. On va pointer du doigt sur des. On m'a pointé du doigt des sujets d'actualité qui pouvaient aussi être traités à l'époque de Tolstoï. Voilà. Un grand merci surtout à Claude pour cette émission. J'espère que vous, les auditeurs, vous avez été passionnés comme lui l'a été. Et je sais qu'il nous réserve d'autres surprises. Alors un jour peut-être, vous en saurez beaucoup plus. Tu peux peut-être nous parler de ces livres que tu as parlé, ou du moins de ce que tu as parlé aujourd'hui?
Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire pour terminer. Ce livre, Je ne peux me taire, j'encourage vraiment les amis et les auditeurs à le lire. Il est disponible en français. La lettre au tsar, voilà, les lettres au tsar. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne peux me taire? Oula, je suis troublé par ce que m'a dit...
Non, il ne faut pas.
Je suis troublé. Je ne peux me taire, malheureusement. Non, n'est pas disponible. Alors, je reprends. Vous voyez quand même là, excusez-moi.
On l'excusera.
Je ne peux me taire n'est pas disponible en français, hélas. Mais c'est la lettre au tsar qui est disponible dans les librairies et que j'encourage à lire. La lettre à un hindou est trouvable sur Internet, comme les correspondances entre Tolstoï et Gandhi, sur Internet et dans la revue alternative non violente, la revue 89, dirigée par François Vaillant. Je tiens vraiment à remercier tous les auditeurs d'avoir prêté attention à toutes ces émissions, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique. Je veux absolument remercier, et je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion et de cœur et de passion, je remercie toute l'équipe de Radio Sainte-Afrique par leur accueil, leur humanité, leur gentillesse et leur professionnalisme. Je tiens à remercier Radio Larzac qui rediffuse mes émissions sur la vie et l'œuvre de Tolstoï. Et j'aime beaucoup passer les voir dans leur merveilleux endroit. Donc je vous dis, chers auditeurs, chers amis, au revoir. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle série d'émissions sur un autre personnage l'hiver prochain.
Voilà, merci Claude, merci à toi pour ces remerciements. Et écoute, on a été très contents de travailler avec toi. On attend les nouvelles aventures. Alors, ce n'est pas les nouvelles aventures de Léon Tolstoï, mais plutôt les nouvelles aventures de Claude Ferré.
Merci Emmanuel, merci.
Voilà, mais on finira sur cette sonate de Léon Tolstoï. On va se la repasser en guise de générique de fin et voilà, on conclura là-dessus. Merci Claude et à bientôt.
À bientôt, au revoir.